Bien, maître Robillard, donc légiférer sur les soins sans consentement, entre progrès et impuissance, ainsi a-t-on intitulé votre intervention.
Donc, bonjour à tous. Alors, en bon avocat, je m'y suis pris au dernier moment. Voilà, ça doit être pour ça que c'est plus simple d'intervenir de la table plutôt que de la tribune. Après, pour le coup, j'interviens avec mon écharpe de député et pas avec ma robe d'avocat. Je crois que j'essaie de ne pas mélanger les deux dans ma vie politique et dans ma vie professionnelle. Il est évident que je me sers de ce que j'ai appris comme juriste d'abord, comme avocat ensuite, parce qu'il arrive que les avocats fassent un peu de droit. Pas toujours, mais quand même. Et quand je vous parlerai à partir, ou si je vous parle à partir de... ou si je vous réponds à partir de mon expérience d'avocat, je vous le dirai. C'est-à-dire que ce ne sera plus le député qui parle, mais plutôt l'avocat. Moi, je tiens à le préciser parce que le regard n'est pas le même. Un avocat, c'est quelqu'un qui défend un client. Un avocat, il ne faut pas croire qu'il cherche la justice. Il cherche à faire gagner ou à faire moins perdre son client. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est parce qu'il y a un avocat des deux côtés qu'on peut penser que la justice sera mieux rendue. Enfin, si vous avez un bon avocat et que de l'autre côté, il y en a un mauvais, ça sera plus facile pour celui qui a un bon avocat. Enfin, un bon juge essaiera de corriger le tir. Il ne pourra pas toujours. Parce qu'un juge, il est saisi parce qu'on lui demande et pas parce qu'on ne lui demande pas. Il n'a pas le droit de statuer ce qu'on appelle ultra petit a. Bon, et donc le regard n'est pas le même. Le regard d'un député, c'est autre chose. Un député, ce n'est qu'un citoyen, un citoyen à plein temps, qui est envoyé par d'autres citoyens pour faire à plein temps la fonction de citoyen. Alors, vous avez peut-être une idée un petit peu autre de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas non plus complètement tort, mais il n'empêche que sur ces questions de santé mentale, je vous assure que c'est ce qui se passe principalement, dès lors qu'il n'y a pas de discours d'Anthony auquel il faille donner une suite juridique. Bon. Et sous ce quinquennat, il n'y a pas eu de discours d'Anthony. Vous l'avez peut-être remarqué. Non, mais c'est important, parce que ça ne se passe pas dans tous les quinquennats. Alors, ceci est une entrée en matière peut-être un peu singulière, mais après tout, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que dans la réflexion d'aujourd'hui, et quand on regarde ce qui s'est passé dans le droit de l'hospitalisation sous contrainte ou des soins sans consentement, pour prendre la terminologie actuelle, mais la terminologie actuelle montre un élargissement et un changement de paradigme, puisqu'on est passé de l'hospitalisation sans consentement aux soins sans consentement, et que pour le coup, le paradigme est singulièrement modifié. La notion de contrainte, au moins au sens légal, le programme de soins est contraignant, légalement contraignant. Ce qui ne veut pas dire qu'il peut être assuré, qu'il peut faire l'objet d'une exécution forcée. C'est-à-dire que la coercition n'est pas permise, bien que la contrainte reste légale. Bon. On dirait qu'on prenne qui pourra. Mais je pense quand même d'un point de vue psychiatrique, ça peut avoir du sens. La référence à la loi a du sens. Peut même avoir des effets thérapeutiques. Les psychiatres avec lesquels je discute, des psychiatres, y compris ceux qui me disent « mais moi, par principe, je suis contre la contrainte en matière de soins ambulatoires », il y en a un qui m'a dit ça, je suis contre en principe, mais je dois constater que quand je fixe un programme de soins avec le patient, le fait que je lui explique que la loi lui impose d'observer ce programme a un effet. Et de façon paradoxale, permet ensuite d'aller vers le consentement. C'est-à-dire que, et il l'expliquait à propos du programme de soins, le fait de la contrainte ne doit pas être un obstacle à la recherche du consentement et n'est pas nécessairement un obstacle à son obtention. Bon. Alors après, pour en terminer avec ça, puisque je crois que c'est important, il faut bien voir que si le législateur a affirmé dans la loi que le programme de soins ne pouvait pas faire l'objet d'une contrainte, ou en tout cas d'une coercition qui ne pouvait pas être exécutée par la force, c'est pas parce qu'il y a réfléchi particulièrement, c'est parce que le Conseil constitutionnel l'a dit. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 avril 2012, a lu la loi du 5 juillet 2011 comme ne permettant pas le recours à la force pour l'exécution du programme de soins. Et quand vous êtes parlementaire, ou quand vous êtes le gouvernement, et que vous avez une position du juge, de votre juge, parce que le Conseil constitutionnel, c'est le juge du Parlement, et que vous connaissez la position du juge, pourquoi faire compliqué ? Vous reprenez, d'abord ça lui fait plaisir au juge, et donc on peut espérer qu'il en tiendra compte dans l'appréciation des autres dispositions, mais vous reprenez ce qu'il dit, parce que vous savez où vous êtes. Alors là, c'est presque le juriste qui vous le dit. Le Conseil constitutionnel a dit un programme de soins ne peut pas faire l'objet d'exécution forcée. C'est la loi qui le dit. La loi ne disait rien de tel. Mais le Conseil constitutionnel a imaginé qu'elle le disait. S'il l'a imaginé, c'est qu'il avait des raisons. C'est qu'il ne voulait pas que le programme de soins puisse faire l'objet de l'exécution par la force. Et le législateur que nous étions, nous sommes dit, ben, pourquoi nous embêter ? Puisque le Conseil constitutionnel le dit, on le met dans la loi, comme ça, parce qu'il y a une valeur d'explication, il y a une valeur pédagogique, et puis il y a un principe qui est fixé. Et nous, ça nous permettait également de ne pas avoir à légiférer sur cette question du programme de soins, qui agitait sur des plans de principe les psychiatres, mais à partir du moment où il n'y a pas de coercition, la discussion restait purement principielle, sans avoir d'application concrète. Et donc, on pouvait avancer. Bon, voilà l'explication sur le programme de soins. Alors, ça me permet de répondre au précédent orateur qui montrait le paradoxe, mais vous avez l'explication, la façon dont les décisions se sont prises. Et comme ces décisions, pour le coup, c'est moi qui les ai prises et que le gouvernement les a acceptées, parce que ça se passe dans la négociation. Je pense que j'ai déjà dit à l'ADESM ici qu'il n'y a pas que le patient qui est sous contrainte. Il y a le législateur. Il y a le gouvernement et il y a même le Conseil constitutionnel qui est sous la contrainte de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne le reconnaîtra pas, mais qui tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne pour réfléchir à sa propre jurisprudence. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant pour un juge constitutionnel de valider une loi constitutionnelle et après de voir que cette loi, le juge de base, refuse son application au motif qu'elle est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Sans parler de l'humiliation que représente pour la France le fait d'être condamné par la Cour de Strasbourg. Alors, c'est une humiliation relative. Il faut accepter les décisions d'un juge. Enfin, il y a un proverbe qui dit qu'on a 24 heures pour maudire ses juges. Il ne doit pas exister par hasard ce proverbe-là. Alors, je reprends l'exposé comme j'aurais dû vous le faire. C'est-à-dire pour vous faire l'histoire sur cette question des soins sous contrainte, de ce quinquennat-là. La loi du 5 juillet 2011, elle était extrêmement décriée dans le monde hospitalier parce que, c'est incontestable, elle était la fille du discours d'Anthony, qui était un discours régressif, qui était un discours stigmatisant et à l'égard des psychiatres et à l'égard des malades et qui était un discours purement sécuritaire. Et donc on est arrivé au pouvoir avec une demande claire d'abrogation pure et simple de la loi. Le problème, c'est que cette loi n'avait pas que Anthony comme maire. Elle avait deux autres maires. Je ne suis pas sûr que ça plairait à tous les candidats aux primaires, mais c'est comme ça. Les deux autres maires, c'est d'une part le souci d'assurer la continuité des soins, souci ancien, porté par l'UNAFAM, porté également par la DGOS. Et ensuite, c'était l'exigence du contrôle judiciaire au sens propre du terme, c'est-à-dire l'institution judiciaire, la justice civile, par la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2011. 2010, pardon.
Vous avez 5 minutes, maître.
Il me reste. Ah ben oui, c'est terrible ça. Bon. Et donc, il y avait 3 maires. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait ? Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 novembre 2010... il invalide 2 dispositions, celle sur les UMD et celle sur les irresponsables pénaux. Techniquement, on pouvait ne pas légiférer. Il suffisait de dire le droit commun s'applique. C'est ce que nous avons choisi pour les UMD. Les UMD, unités pour malades difficiles, nous avons analysé comme étant des institutions à but thérapeutique qui ne nécessitaient pas un régime juridique particulier. Et aujourd'hui, le régime des UMD est fixé réglementairement pour qu'il y ait une base à leur fonctionnement, mais il n'y a pas besoin de loi Et le fait de passer dans un dispositif thérapeutique qui se caractérise, outre par son aspect carcéral, par un taux d'encadrement qui est triple ou quadruple du taux d'encadrement habituel, ne nécessitait pas d'en tirer des conséquences juridiques, quelle que soit la durée de passage en UMD. Ça a été notre raisonnement. Sur les irresponsables pénaux, nous avons choisi de cantonner le système. Pourquoi ? D'abord parce que ce système avait fait l'objet d'un consensus relativement ancien, puisqu'il a été institué par la loi de 1990, repris par la loi de 2011. Simplement, il s'appliquait à toutes les irresponsabilités pénales, quelle qu'ait été la gravité de l'infraction, à la suite de laquelle l'irresponsabilité avait été constatée. Et donc, notre propos était de limiter son application pour les faits les plus graves, 5 ans de peine encourue quand l'infraction portait sur les personnes, 10 ans s'agissant d'une infraction sur les biens, notamment les problèmes d'incendie volontaire. Bon. Pourquoi avoir maintenu ça ? Ce n'était pas contre les psychiatres, ce n'était pas contre les malades. Mais il s'agissait simplement de dire à la population que quand il y avait eu un passage à l'acte pénalement répréhensible, grave, il y avait un luxe de précaution qui était prise avant de permettre à la personne de réintégrer la vie sociale habituelle. Et que par conséquent, ces personnes, si elles sortaient de l'hôpital, c'était en pleine connaissance de cause, après que toutes les précautions étaient prises et qu'elles devaient donc être accueillies par la société. Autrement dit, le mécanisme prévu était un message à direction de la société et pas un message particulier en direction de l'hôpital et encore moins un message de stigmatisation à l'égard des patients. En tout cas, ça a été notre logique. Bon, tout a été expliqué sur les modifications qui ont été apportées au régime judiciaire de contrôle. D'un point de vue symbolique, on peut tout dire dans le fait que le contrôle se passe au palais de justice ou qu'il se passe à l'hôpital. Il y a des arguments dans les deux sens. Il y a des arguments très forts pour dire que ça doit se passer au palais de justice parce que l'indépendance, c'est là qu'elle est. Mais ce qui nous a déterminés, et là le choix s'est fait de façon très claire, c'est que tous les témoignages, sauf un, tous, nous ont dit que le contrôle était beaucoup mieux vécu par les patients quand il était exercé à l'hôpital plutôt qu'au palais de justice. Et voilà pourquoi ce choix a été fait. Alors,
En deux minutes
sur sur la contention. Donc c'est un temps très contenu. L'article 72. 1, je vous rappelle qu'il est applicable immédiatement. Pas de dispositif d'application. En première lecture, il était renvoyé à un décret pour les modalités d'application. On a supprimé, à la demande du gouvernement, on a supprimé par un amendement de ma part ce renvoi au décret en considérant que les dispositions étaient suffisamment précises pour être immédiatement appliquées. Et donc, elles sont immédiatement applicables. C'est-à-dire que si une CDSP, voire un parlementaire, vous demande l'accès au registre, il faut pouvoir le présenter, ce qui suppose qu'il existe. Je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il existe dans tous les établissements. Je pense même que le nombre d'établissements dans lesquels il n'existe pas est supérieur à celui dans lesquels il existe. Bon, c'est un point qui n'est pas négligeable. Deuxièmement, j'entendais l'orateur précédent dire, mais est-ce que le choix entre décision et prescription est le fait d'une erreur ? C'est peut-être le fait d'une erreur, mais dans ce cas-là, elle a été délibérée. Parce que le choix a été fait. Il y a eu un débat très clair qui n'a pas eu lieu devant le Parlement, qui a eu lieu dans les couloirs. Mais le président des CME était très... La conférence des présidents de CME était très déterminée à obtenir que ce soit une prescription. J'avais pris l'avis de l'OMS qui était très contre la notion de prescription en disant l'isolement et la contention, le plus souvent, c'est une mesure de sûreté, une mesure de sécurité, ce n'est pas un soin. Je ne dis pas que quelquefois ça ne peut pas l'être, notamment en ce qui concerne l'isolement, mais le choix qui a été fait, c'est très clairement d'éviter le mot prescription, de rester à celui de décision. Bon. Il y a des conséquences juridiques probables. Vous savez que le premier président de la Cour d'appel de Versailles, dans une ordonnance de mémoire du 24 octobre 2016, a considéré que dès lors que c'était dans une UND, l'hôpital ne rapportait pas la preuve du recours régulier à une contention qui qui durait, enfin un isolement de mémoire, c'était un isolement après une contention, un isolement qui durait depuis l'arrivée du patient à l'UMD, il devait y avoir main levée de l'hospitalisation même. Bon, on peut discuter de ça, sur les conséquences juridiques, sur le raisonnement juridique, mais quand on regarde le droit sur la rétention, donc en matière de droit des étrangers, et cette notion de chaîne de liberté, quand un segment de la chaîne est rompu, c'est la chaîne tout entière qui casse. C'est ça le raisonnement. Bon. Et la transposition de ce raisonnement-là à l'hospitalisation, sous contrainte, c'est ce qu'a fait le premier président de la Cour d'appel de Versailles. Je ne sais pas s'il y a un pourvoi en cassation. Monsieur Bitton, qui est dans la salle et à qui on doit la diffusion très rapide des décisions qui se rendent, pourra nous le dire le cas échéant. Il n'y a pas de pourvoi. Ben, c'est dommage. J'aurais bien aimé... Bon, il y a un pourvoi. Ah. Non, mais l'hôpital, monsieur Bitton, pour vous expliquer, a demandé l'aide juridictionnelle. Dans ce cas-là, ça demande un peu plus de temps. Bon. Bon. Non, mais je blague.
On va conclure. Maître, on va conclure. Si
donc, je conclue, mais en disant, voilà, le terme décision a été délibéré. On peut me le reprocher, mais on peut le reprocher au gouvernement, puisque ça a été une discussion avec le gouvernement. Quel était le meilleur terme ? Le terme prescription, quand vous êtes sur une mesure de sûreté, n'est à l'évidence pas adapté. Et vous avez toute la littérature internationale qui est dans sur ce terrain-là. Je ne la citerai pas. Bon, je ne vais pas plus avant parce qu'il faut en garder pour le débat.